Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des lycéens dirigé par Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 4 septembre 2017, diffusée samedi 18 novembre, de midi à 13h30 et réalisée par Franck et Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Celle-ci est préenregistrée, mais je suis très heureux de vous retrouver et je recevrai vos messages et vos courriers avec plaisir. Aujourd'hui, je vous propose une émission sur un sujet passionnant et méconnu, les mercenaires, également appelés soldats de fortune. Depuis toujours, il existe des hommes qui ont choisi des chemins de traverse, qui ne portent pas l'uniforme réglementaire et qui combattent sans drapeau, mais non sans honneur. Qui sont ces hommes ? Quelle part ont-ils pris à l'histoire du monde et tout particulièrement à l'histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? C'est bien cela que nous allons essayer de découvrir avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Tupé. Thierry Tupé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes le président de l'association OPN, Orps Patria Nostra. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. J'ai également le plaisir de recevoir François-Xavier Sidos. François-Xavier Sidos, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes ancien officier de la garde présidentielle comorienne et vous avez fait paraître, il y a déjà quelque temps, un ouvrage, Les soldats libres, la grande aventure des mercenaires, aux éditions de l'Ancre. Et j'ai également le plaisir de recevoir Jean-Pierre Candoni. Jean-Pierre Candoni, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes également ancien officier de la garde présidentielle comorienne et vous êtes consultant en sécurité. Alors, tout d'abord, peut-être un petit mot de présentation sur cette association, puisque d'une certaine façon, c'est ce qui vous relie. OPN, Orps Patria Nostra, un beau latin, mais quelle en est la signification et l'objet pour nos auditeurs ?
Alors, l'association Orps Patria Nostra, dont je suis le président pour le moment, a été créé rapidement, enfin peu de temps après le décès du colonel. Les mots latins, oui, c'est assez simple. Hein, ça plagie.
Le colonel
Dénard, bien sûr, le colonel Robert Dénard. Ça a plagié un petit peu à l'époque la devise de la Légion Orps Patria Nostra, le monde, notre patrie.
Et quelle est la vocation de cette association ?
Alors l'objet de l'association était à l'époque de promouvoir la mémoire du colonel Dénard, d'une part, et aussi de la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous ses ordres et qui ont laissé leur vie sur toutes les pistes d'Afrique essentiellement, mais aussi d'Europe et aussi du monde entier.
Alors pour nos auditeurs, nous parlons en effet de Bob Denard, qui est une figure emblématique de ce milieu. Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots, justement, l'un d'entre vous, sur la carrière et les engagements du colonel Denard pour resituer à la fois l'homme et le contexte historique.
Alors le colonel Denard, bon, que beaucoup de gens appellent vulgairement Bob Denard.
Oui, je suis désolé, mais pour nos auditeurs, c'est quand même plus pratique, c'est sous ce nom-là quand même qu'il a passé la postérité.
Absolument, et il s'appelait d'ailleurs Robert, ce qui est tout à fait logique. C'est une personnalité atypique à bien des égards et que pour notre part, tous les trois, nous avons eu la grande chance de connaître et nous avons eu la chance et l'honneur de travailler avec lui, de servir sous ses ordres. En total respect, c'est un type curieux. Il était programmé pour être officier marinier, c'est-à-dire sous-officier en fait dans la marine nationale. Il s'est trouvé que suite à des péripéties un petit peu, on va dire rocambolesques, puisqu'il s'agit de la destruction d'un bar. Il s'est retrouvé muté dans le civil, comme on dit, avec un grade de second maître, c'est-à-dire d'officier marinier. C'est un truc important parce que ça détermine beaucoup la suite de sa carrière. Mais c'était un soldat dans l'âme, donc il fallait qu'il se batte, il fallait qu'il porte les armes, quelques années après donc cette expérience indochinoise où il avait dû quitter l'armée française, la marine française un peu précipitamment, il s'est retrouvé totalement par hasard impliqué dans l'affaire du Katanga. Déclaration d'indépendance de cette province à l'époque appartenant au Congo belge, dans laquelle beaucoup d'anciens soldats, c'est là aussi qu'on a commencé à parler de soldats de fortune, se retrouvaient, que ce soit des Belges ou des Français, parce que la déclaration d'indépendance c'était immanquablement suivi d'une guerre. Et recruté par un Belge, par un service tout à fait officiel sur place, qui est détenu par un Belge, le colonel Denard s'est retrouvé officier parce qu'on lui a demandé quel grade il avait dans l'armée française et il avait un grade d'officier marinier. Alors chez les Belges, officier marinier, c'est officier de marine. Et le voilà lieutenant. Et ça a été un peu le début de sa carrière, en fait, où il s'est singularisé de façon assez nette par rapport à ce qui se faisait dans l'encadrement de ce type d'armée. C'est que lui est parti tout de suite sur un mode d'encadrement mixte. C'était pas les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. C'était tout le monde se bat pour la même chose et on vit comme les gens. Et en fait, c'est ce qui a déterminé...
Une vie de troupe, en quelque sorte.
Une vie de troupe. Mais au-delà de la vie de troupe, une profonde compréhension des hommes, même très différents, avec lesquels il travaille. Et ça, c'est sa marque de fabrique. Et c'est ce qui a fait qu'il a été repéré. Lui faisait défiler, lorsqu'il y avait des défilés, faisait défiler des troupes, on va dire, mixtes, c'est-à-dire avec un encadrement local. C'était pas les blancs commandent et les noirs exécutent. Et dans le contexte de l'époque, c'était déjà quelque chose d'important.
Très novateur.
Très novateur. Et il a conservé cette marque de fabrique-là. Alors je vous passe, hein, on pourrait parler des heures de sa vie. Ce qui est important, enfin pour nous qui l'avons connu, et c'est ce qui reste, c'est son charisme. Aucun d'entre nous ne regrette d'avoir travaillé avec lui pour lui, quelles que soient les conditions parfois un petit peu difficiles, les soldes parfois, disons aléatoires. Ça reste pour nous un grand bonhomme et c'est pour ça que nous avons décidé de consacrer une partie de notre temps à la défense de sa mémoire, sa mémoire n'est pas véritablement attaquée si ce n'est par une presse sans intérêt, mais
à faire connaître finalement la dimension du personnage. Vous parlez d'un homme complexe, est-ce que vous diriez qu'il allie les qualités du combattant à celui du psychologue?
Il n'y a pas de bon chef combattant qui ne soit pas également un bon psychologue. Et oui, dans son cas, évidemment, c'était ça. Et donc, bon, pour terminer tout ça, ça fait 10 ans qu'il est décédé, même si nous savons tous que les vieux soldats ne meurent jamais. Nous allons avec l'association Ors Patria Nostra, comme tous les ans, mais cette année avec un relief particulier puisque c'est le 10e anniversaire, faire honneur à sa mémoire, à l'occasion de ce 10e anniversaire en octobre dans la Pointe de Grave.
Les auditeurs qui sont intéressés évidemment par toute une documentation sur le colonel Denard, Bob Denard tel que la presse a un peu popularisé son nom, vous me pardonnerez de continuer à utiliser ce terme qui est plus facile journalistiquement. Vous
C'était
savez,
une boutade, rassurez-vous.
pourront évidemment aller sur le site de votre association, dont je rappelle le nom, Orbs Patria Nostra, et qui est particulièrement fournie. Je vous avoue de ne pas avoir encore absolument tout lu, mais voilà, ça me réservera d'autres lectures. Vous semblez avoir glissé un peu vite sur le soldat classique qu'il fut, officier marinier, enfin rien de plus banal, j'allais dire, dans l'armée française. Et puis, ce que l'on sait, c'est que non, ce n'est pas, comme je le disais en préambule, quelqu'un qui s'est battu sous l'uniforme de l'armée française ou de l'armée belge, ou en tout cas pas directement. Donc, comment s'est fait ce passage vers cette situation de mercenaire, à quel moment, quel a été le déclic? J'imagine que si ça s'était fait de façon, sur un coup de tête, nous ne serions pas là pour en parler, car il n'aurait pas fait long feu.
Certainement. Bon, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a le déroulé historique de tout ça. Nous sommes dans un contexte de décolonisation avec les guerres de décolonisation, donc où on a trouvé dans beaucoup de ces conflits des soldats qui effectivement sans toutefois le revendiquer, pouvait correspondre au qualificatif de mercenaires. On est dans un contexte à l'époque de guerre froide. Il y a ce contexte politique où d'un côté on appelle mercenaires ceux qui sont, disons, plutôt dans le camp, entre guillemets, occidental. Et de l'autre côté, on appelle volontaires tous ceux qui sont plutôt dans le camp de l'autre côté du mur. Un épisode à l'époque du Congo, à l'époque de la révolte des Simba, assez mal connu, c'est que ce que les gens savent assez peu, c'est que Che Guevara lui-même, qui voulait internationaliser, exporter la révolution, a tenté de monter une opération mercenaire, ça revient exactement à la même chose, à l'époque où Denard était, lui, de l'autre côté. À ceci près que Denard a réussi à s'adapter, à faire les choses intelligemment, et ça, il y a eu une certaine postérité. Che Guevara est reparti, lui, la queue basse. Donc, beaucoup, toute cette époque a drainé de nombreux soldats. De nombreux soldats, il faut se souvenir qu'on sort à l'époque, non seulement il y a eu la guerre d'Indochine, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu toutes les difficultés, les épisodes, les déchirures de la fin de la guerre d'Algérie, et beaucoup de soldats, de gens qui n'avaient toujours fait que ce métier, qui ne connaissaient pas d'autres métiers, se sont retrouvés là-dedans. Alors évidemment, ça a arrangé les services français. Si c'est ça le deuxième volet de votre question.
Mon volet, il est très simple. C'est à quel moment le colonel Denard passe d'un statut de militaire reconnu comme tel par le droit international à une situation non couverte, finalement, non reconnue par le droit international. Mon propos est extrêmement, extrêmement simple.
Ça se passe très clairement en 1965 à l'occasion de la sécession du Katanga.
Et quel est l'événement déclencheur? On va le chercher, on lui donne des armes. Enfin,
alors
comment
lui,
ça se passe? On aimerait un peu de
ça, on saura jamais.
Matérialité. Autant les films montrent trop et expliquent pas assez, autant il faut quand même que l'on montre un petit peu.
Lui dit. Pardon, j'ai dit 1965, c'est 1961 que ça commence. Lui dit que c'est en lisant un journal, l'Aurore de mémoire. Qui parlait des affreux déjà du Katanga donc lui dit que c'est par hasard. Ben c'est par hasard, mais bon, il est évident qu'il avait certainement été.
C'est par hasard, mais il est dans l'ambiance. Oui, allez-y, Jean-Pierre Candel.
Ouais, cette transition ne se fait pas du jour au lendemain, puisqu'il quitte l'armée en 45 et puis il part au 52, pardon, il quitte l'armée en 52 et il part au Katanga en 61, 62. Donc il y a pratiquement 10 ans pendant lesquelles il se cherche. Il va travailler au Maroc, il va travailler en Algérie. Il est plus ou moins en relation avec des mouvements politiques. Il trempe dans un complot contre Mendès France. Donc, il est un petit peu sur la frange de la politique, sans être complètement dedans. Et ces relations lui créent quelques contacts toujours dans le milieu.
Il est repéré en quelque sorte.
Je dirais pas qu'à ce moment-là il est repéré.
Il
non.
Il est repéré par ceux qui ont besoin d'hommes de.
Non, cette... Je pense qu'à ce moment-là, c'est un anonyme parmi d'autres. Un homme.
Même après ces 14 mois de prison, justement dans cet événement que vous mentionnez.
Oui, absolument. Bah, c'est un bidas qui a fait le con, hein, qui a pris quelques mois de trou et puis qui se fait virer. Donc.
Donc il n'est pas connu.
Comme on l'a expliqué. À ce moment-là, c'est un officier marinier, c'est un sous-officier. Il n'est pas destiné à une grande carrière dans l'armée française. Et donc il se passe quand même ces 10 ans, comme je le disais, durant lesquels moi je pense qu'il se cherche. Il n'est pas à l'aise, il vend des extincteurs, il vend des machines à laver ou quelque chose comme ça. Il gagne sa vie, mais il ne se retrouve pas dans cette vie-là, quoi. Et comme effectivement mon ami FX le disait, en tout cas le colonel le disait comme ça, il tombe par hasard sur un article qui fait état de la présence des affreux, puisqu'on les appelle les affreux au Congo. Au Katanga, le Katanga étant une province du Congo, il tombe par hasard sur un article qui fait état de la présence des affreux au Katanga, dont Tony de Saint-Paul, qui est une des figures du milieu. Un article lui est consacré dans l'horreur, et voilà, c'est le déclic. Et voilà, il veut rejoindre Tony de Saint-Paul.
Et ensuite.
Et ben là, c'est le départ. C'est le départ. Alors bon, on va pas égrainer toute sa carrière.
C'est juste pour brosser un tableau général qui permettra à nos auditeurs de se repérer dans le temps et dans l'espace dans notre conversation.
Disons que ensuite, c'est l'enchaînement des conflits et des événements de la décolonisation. Pendant un certain temps, on va dire que même la fin de l'affaire comorienne, hein, 1995, la dernière opération menée par Bob Denard aux Comores, c'est l'extrême fin de la décolonisation. Après, on passe à une autre époque. Et son heure de gloire, entre guillemets, c'est ça. Donc c'est Congo, c'est le Yémen, c'est un certain nombre d'opérations un petit peu partout. Et puis ça se termine par les Comores avec là une véritable construction.
Alors je pense que c'est peut-être intéressant d'en parler parce que... Le colonel Denard n'a pas uniquement fait des coups de main, des coups de force, il a aussi essayé de bâtir quelque chose, ce que l'on sait moins. Et peut-être, si vous en êtes d'accord, on peut s'attarder un tout petit peu sur l'aventure comorienne, qui, je pense, résume bien quand même ce qu'est le personnage et la vie de Bob Denard.
Oui, et surtout résume ses aspirations. Il l'a souvent dit à beaucoup d'entre nous, c'était un peu sorte de leitmotiv chez lui. J'ai beaucoup détruit dans ma vie, j'ai beaucoup combattu, maintenant je veux construire. Et c'est précisément ce qu'il a essayé de faire, aux Comores. Alors je dirais essayer de faire parce qu'il n'a pas été suivi. Les autorités françaises ont été extrêmement injustes avec lui sur la fin de ces opérations-là. Mais les Comores, qu'est-ce qui reste de ce qu'il a fait aux Comores ? Eh bien, il a, à l'époque, établi les conditions favorables pour un développement économique de l'archipel des Comores dans de bonnes conditions. Pour qu'un développement économique puisse avoir lieu, il faut une stabilité politique. Et le rôle de la garde présidentielle comorienne, c'était précisément de faire en sorte que cette stabilité soit garantie. Et puis, il a fait venir derrière des investissements étrangers. Son problème, c'est que c'était pas un homme d'affaires. Donc, il a fait venir des hommes d'affaires. Lui, il ne s'est jamais enrichi dans ces histoires-là pour purger un reproche que certains pourraient lui faire.
On dit qu'il est mort dans un grand dénuement. Vous confirmez ?
Nous confirmons.
Oui, absolument. Il était, je dirais pas indigent, mais il avait aucun revenu en fortune.
Et donc, les Comores, en s'appuyant sur cette stabilité grâce à l'existence de la garde présidentielle, construction d'une ferme pilote à Sangani, construction d'hôtels pour faire venir le tourisme étranger, c'est-à-dire tout ce qui pouvait faire que les Comores soient autosuffisants sur le plan alimentaire et sur le plan économique puissent s'en sortir.
Je me permettrai d'ajouter que dans ce volet du développement économique aux Comores, il y avait effectivement aussi le volet des constructions. Alors ça peut paraître dérisoire, mais les Comoriens construisent beaucoup parce que c'est dans la tradition familiale. Donc chaque fille d'une famille doit recevoir en dot sa maison. Donc comment on construit ? On construit avec du sable. Il n'y a pas de sable aux Comores, c'est une île volcanique. Donc, pour pouvoir construire les maisons, on pillait, mais quand on dit qu'on pillait, c'est à coups de bulldozer et de camion, on pillait les plages, qui sont pratiquement la seule ressource touristique, le seul bien touristique que pouvait mettre, un des rares biens touristiques que pouvaient mettre en avant les Comores. Et le colonel a fait en sorte que, à force d'études et de missions et d'analyse, on a pu donc mettre en valeur la cendre de volcan, qui s'appelle le pouzzolan, qui est un petit peu du sable, qui est un petit peu du sable volcanique. Et finalement, on a pu introduire dans les constructions comoriennes ce sable de volcan dont il regorge bien sûr aux Comores, sans avoir à détruire toutes les plages qui étaient pillées à coups de bulldozer et de camion. Et je peux vous dire, pour avoir épousé une comorienne et donc avoir quelques relations jusqu'à maintenant avec les Comores, que ce principe a été perpétué et que maintenant donc on utilise le sable de pouzzolan. Pas à 100%, mais on utilise le sable de pouzzolan pour construire aux Comores.
Thierry Tupé, vous voulez ajouter quelque chose ?
Pas ce que vient de dire Jean-Pierre, mais pour répondre plus précisément à votre question, en ce qui concerne la façon dont le colonel a été perçu, parce qu'on ne pourra pas ne pas parler du fait que la France a toujours été... la France a toujours été complice. Le gouvernement français a toujours su ce que faisait le colonel. Qu'il ait été rétribué à sa juste, que ses services aient été rétribués à leur juste valeur, c'est un autre débat. Donc, vous posiez la question tout à l'heure de savoir quand il a été perçu. C'est justement, et là mon ami François-Xavier a parlé tout à l'heure du début de l'aventure. Mais le début de la compétence aussi. Parce que quand il est arrivé au Katanga, il n'était pas tout seul. Les volontaires arrivaient par avion. Et à cette époque-là, après avoir lu l'article dans l'Aurore où on parlait d'Antoine de Saint-Paul, à qui, pour ceux qui le connaissent, à qui j'adresse un vibrant hommage. Le colonel a fait la différence sur le terrain. Il a été confronté à toute une kyrielle d'excellents soldats aussi, et c'est lui qui en est sorti vainqueur, si je puis dire, et c'est à ce moment-là que les services français se sont intéressés à lui. C'était pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est vraiment ponctuel. Il est parti comme un Pékin. Il est resté là-bas peut-être, il est arrivé lieutenant, comme le disait FX, il est arrivé lieutenant...
François-Xavier Sidos, donc pour nos...
Oui, pardon, FX étant les initiales de François-Xavier, oui, pardon. Et 6 mois après, il a dû passer commandant de compagnie et très rapidement chef de bataillon, avec de la concurrence. Mais c'est lui qui a réussi. Si. Voilà, c'était mon intervention.
Oui, pour compléter ce que dit Thierry, c'est vrai que à cette époque, comme l'avait laissé entendre tout à l'heure FX, on est après l'Algérie. On est tout de suite après l'Algérie et l'armée française voit d'un bon œil, le gouvernement français voit d'un bon œil partir vers cette terre lointaine tout un tas de soldats qui ne correspondaient pas au profil qui était dorénavant attendu. Et donc effectivement la concurrence est rude puisque effectivement le colonel se retrouve parmi tout un tas de gens qui ont on peut citer Roger Bruny qui a fait donc c'est une des figures de notre corporation qui a fait la guerre toute sa vie et donc effectivement on peut parler aussi de et bien sûr le nom va m'échapper
Folk.
Du commandant ou major Folk selon le pays sur lequel on stoppe. On se situe.
Qui vient de la Légion étrangère.
Et donc ce sont vraiment des pointures reconnues. Alors là, le colonel, comment il émerge en fait, en dehors de ce qu'a expliqué FX tout à l'heure. Il fait la différence par une approche différente, mais il y a aussi, comme le disait Thierry, donc les compétences. Et il est reconnu...
Compétences militaires.
Bien sûr, on parle de compétences militaires, mais pas que. Il arrive à faire la différence parmi tous ces gens-là qui ont un vrai background, qui ont une vraie formation, qui ont une vraie expérience de la guerre, de comment on mène une compagnie, comment on mène un bataillon, etc. Et...
Il ne l'a pas appris d'ailleurs.
Exactement.
Et donc il y a une sorte d'instinct militaire naturel, inné chez le colonel Denard.
Oui, et cette espèce de charisme qui fait que voilà, c'est vers lui qu'on se tourne, c'est à ses idées c'est qu'on adhère. Et c'est ce qui est un petit peu inexplicable, on se pose souvent la question entre nous de le définir. Moi je suis. Bon, je pense être un de ceux qui l'a côtoyé le plus longtemps sur la fin de sa vie. Je suis incapable de le définir. C'est un espèce de mélange de compétences, de
oui, de politique aussi.
De politique. C'est quelqu'un de très très difficile à définir.
Et néanmoins, vous venez de dire, on adhère à ces idées. Mais quelles sont les idées de Bob Denard? Parce que ça, on n'en a jamais parlé.
Alors, on en parle assez peu parce que c'est pas un idéologue. Il n'a pas marqué son époque par ses écrits philosophiques.
Non, mais point n'est besoin d'être un idéologue pour avoir des idées. Et parfois, pour les défendre...
Bon, il y a les idées de l'époque. Les idées de l'époque, à l'époque de la guerre froide... C'est évidemment, et c'est comme ça qu'il se définit, il y a beaucoup d'anticommunisme. Parce que l'adversaire, c'est le communiste. Partout où cette génération se bat, l'adversaire, c'est le communiste. Mais je dirais que c'est un petit peu dérisoire par rapport à tout le reste. Il a été très décrié par des gens qui étaient très engagés politiquement à droite. Je pense notamment au capitaine Souettre, qui n'aimait pas du tout le colonel Denard, qu'il considérait comme un gaulliste. Alors à l'époque, gaulliste, dans un contexte après la guerre d'Algérie, contexte de la fin de l'OS, gaulliste, c'est l'insulte absolue, c'est l'injure, l'injure totale. Bon, la vérité, c'est que le colonel, il n'était pas plus gaulliste que je suis dans ces étoiles. C'est pas non plus son. Comment dire, on peut pas le définir avec des critères de, je dirais, d'orientation politique.
De politique politicienne.
Voilà.
C'est plutôt les grandes. Voilà. Le grand thème, c'est la France, l'anticommunisme.
Voilà. Très classique de ce point de vue-là, mais aussi surtout lui avec des idées très novatrices, et c'est en ça qu'on le suit. Il nous a tous bien fait comprendre, il nous a tous appris et bien fait comprendre qu'on ne mène pas des soldats si on ne vit pas avec eux. Et ça, dans le contexte de la décolonisation, c'est pas si simple que ça. C'est plutôt...
Oui, parce que quand on parle de soldats, là, on n'est pas sur des soldats qui ont la même origine, la même histoire, la même couleur de peau. On est avec des soldats qu'on ne connaissait pas hier.
Absolument.
C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'il faut créer une sorte de mini-société, de petit peuple, en réduction en quelques jours, quelques semaines, quelques années.
Le grand savoir-faire du colonel, c'est ça, c'est cette compréhension instinctive et cette espèce d'aura instinctive aussi. On parle de charisme, mais je crois que c'est ça, là, ce qu'il détermine le mieux, c'est ça. Cette capacité à comprendre et à mobiliser des gens en vue de combats dans lesquels ils ont de très, très fortes chances de se faire tuer.
Mais quel est le taux de mortalité?
Alors, ça jamais. Il faudra un état civil qui malheureusement.
Par définition. Certes, mais.
Bon, ça dépend des opérations, mais au plus fort des bagarres de 65-67 au Congo, il y a eu beaucoup, beaucoup de casses. À Bukavu, par exemple, il y a eu pas mal de casses. J'ai aucune idée, personne n'a fait vraiment d'études là-dessus sur le taux de mortalité, parce que. Souvent, les soldats, je parle des soldats européens ou de l'encadrement européen concerné, c'était vis-à-vis de leur famille, c'est parfois les vilains petits canards, on s'en vante pas trop. C'est pas comme mourir sous l'uniforme français, où là, on a des chances d'être décoré et enterré dans un cimetière militaire. Là, c'est plutôt des histoires qu'on met sous le tapis et qu'on ne ressort pas trop. Si vous voulez, malheureusement, parce que beaucoup de ces gens ont eu une attitude tout à fait plus qu'honorable, glorieuse et assez remarquable. Mais donc, le taux de mortalité, et puis ça dépend évidemment des combats, ça dépend des époques, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. L'époque du Congo, avec des grands affrontements assez lourds, bah, c'est pas la même chose, évidemment, que la garde présidentielle des Comores. Où on a plutôt tendance à mourir par accident.
Parce que là, c'est pour les Comores, on y reviendra, mais en gros, c'est une opération coup de poing qui permet de renverser une situation politique. Et ensuite, on a une gestion finalement au long cours du rapport de force qu'on a instauré.
C'est à peu près ça.
Je vous reviendrai voilà. Et vous mais bon. Préciserez mon propos un peu
absolument
un
pas,
peu rapide.
Voilà. On va épiloguer là-dessus pour l'instant, mais effectivement, le schéma que vous évoquez est le bon.
Alors vous dites que il n'est ni gaulliste ni anti-gaulliste. Néanmoins, ce qu'il m'avait semblé, c'est qu'il a toujours été en lien avec ce qu'on appelle les réseaux de la France-Afrique, qu'il y avait un lien relativement étroit avec Focard et ses réseaux. Que pouvez-vous dire là-dessus?
C'est exact. C'est parfaitement exact, dans la mesure où Focard gérait, pour le compte du président de la République de l'époque qui s'appelait Charles de Gaulle, tout l'aspect africain. Donc, sauf que, à l'époque, les réseaux de ce qu'on a appelé la France-Afrique après, ce sont les réseaux officiels français. Ce sont les réseaux des services français, tout simplement, ni plus ni moins. Et pendant toute sa période de notoriété africaine, le colonel est traité au sens...
officier traitant.
Voilà, par différents officiers traitants du SDEC de l'époque.
Ancêtre de la DGSE pour nos auditeurs.
Voilà, et qui s'en sont tout à fait honorés, enfin qui étaient tout à fait honoré de le faire et qu'ils l'ont tout à fait admis dans plusieurs cas. Hein. Donc oui, il y a ce lien officiel, mais il n'y a pas de lien de subordination dans la mesure où il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de budget attribué par la France.
Pas de budget officiel.
Voilà.
Mais il y a des budgets.
Il y a forcément des budgets. Mais je prends un exemple tout bête, l'affaire du Biafra. Le colonel Denard est impliqué au Biafra, plus pour la partie livraison d'armes. Et c'est à l'époque le patron opérationnel sur place des combattants français, c'est le commandant Folk, parmi les combattants du Biafra. Le budget qui permet à Denard de faire son boulot est débloqué par Houphouët Boigny. C'est la Côte d'Ivoire qui paye à l'époque. C'est pas la France officiellement, si vous voulez. Donc il n'y a pas de lien.
Ce ne sont pas les fonds secrets de l'Élysée ou de Matignon. Ce ne sont pas les fonds des services secrets. Ce sont vraiment des États africains qui. Peut-être avec ensuite un arrangement d'État à État, mais ce sont les États africains qui payent.
À cette époque-là, oui. au moins de façon tout à fait claire et avérée dans au moins deux opérations. L'opération du Biafra et puis l'opération du Bénin en 1977, où là il y a quatre États africains.
Thierry Tupé, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, la France a malgré tout toujours payé un petit peu via des transferts de fonds dans les capitales africaines. Il ne faut pas oublier qu'aux Comores, une partie de notre budget venait de l'Afrique du Sud. C'est une vérité établie, c'est acté. Et aussi une partie via la coopération française et l'aide militaire technique. C'était des fonds français donnés à une puissance française, l'aide militaire technique, en poste à l'étranger. Et nous-mêmes, la garde présidentielle, en récupère une partie. Donc ça, c'est une vérité établie maintenant.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Nous nous entretenons autour de la grandeur et de la servitude de l'État de mercenaires, avec également un hommage au colonel Denard. Et j'ai le plaisir de recevoir Thierry Tupé, qui est le président de l'association Orps Patria Nostra, qui est l'association qui vise à promouvoir et faire vivre l'œuvre et la mémoire du colonel Denard. François-Xavier Sidos et Jean-Pierre Candani, qui sont notamment anciens officiers de la garde présidentielle comorienne. Alors, nous parlions justement de ce qu'il était nécessaire pour mener à bien ces actions. J'ai un peu envie de vous poser la question un petit peu journalistique, mais combien coûte un coup d'État alors, hein, si jamais certains de nos auditeurs étaient tentés par l'aventure?
Malheureusement, c'est passé de mode.
Les prises de pouvoir depuis que le monde est monde, je pense, resteront toujours un sujet d'actualité, si je puis me permettre.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait, par exemple, du dernier coup d'État, oui, monté comme tel, réalisé comme tel, et puis jugé comme tel par les tribunaux français quelques temps après, celui des Comores en 1995, le budget était dérisoire. Le budget était dérisoire, hein. On parle de 10 millions de francs. Ce qui est et là pour le coup très probablement les fonds secrets français, quoi, officiels français.
J'ai une question toute bête. Comment se fait-il, eu égard finalement à la facilité d'accès dans un certain nombre de cas précis, il y a celui-là mais il y en a d'autres, de la possibilité de changer l'ordre des choses finalement, de changer le pouvoir, pourquoi il n'y a pas plus d'hommes d'affaires, qui sont quand même des gens qui essayent de faire plus, hein, de gagner plus, d'aller plus loin, etc. Pourquoi aussi peu d'hommes d'affaires se sont intéressés, mais depuis que le monde est monde, à la question, je ne parle pas de la question militaire, c'est en dehors, mais justement de dire, je vais me payer mon armée et je vais prendre le pouvoir sur une île déserte et je serai dernier roi d'Écosse ou en Amérique du Sud, etc. Ma question est vraiment psychologique et sociologique. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Si j'étais milliardaire, je pense que j'aurais plein d'envies dans plein de domaines différents et pas uniquement dans le mécénat artistique, vous voyez.
Non, je pense que si vous étiez milliardaire, vous achèteriez une île et vous n'investiriez pas dans une force militaire pour aller la prendre. Tout simplement. Et effectivement, des coups d'État chers existent quand ils s'appliquent à des territoires qui peuvent permettre de développer des revenus. Mais les Comores, c'est le pays le plus pauvre du monde, ou le troisième pays le plus pauvre du monde. Nous sommes intervenus au Tchad, à l'époque, ça devait être le cinquième pays le plus pauvre du monde. Après, ça coûte plus cher. Et les Américains développent maintenant des techniques qui leur permettent d'aborder des pays qui sont générateurs de profits.
Alors on va y venir. Pour la petite anecdote, je sais par l'intermédiaire d'un membre de ma famille qui dirige un des grands paquebots de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, c'est qu'il a une véritable armée qui protège son bateau. Et avec des systèmes que je pense l'armée française n'a pas et n'aura pas avant assez longtemps. Fermons la parenthèse, mais pour nos auditeurs, pour montrer que quand même il y a un certain nombre de choses. Alors justement, lorsque l'on voit ce que vous dites sur la prise de pouvoir aux Comores et le fiasco intégral, par exemple, de la Seconde Guerre d'Irak, on se dit, mais comment c'est possible? Pourquoi dans un cas, ça coûte 1,5 million d'euros? Et pourquoi en Irak, je m'adresse là aux consultants en sécurité que vous êtes maintenant, pourquoi en Irak, c'est 600 milliards de dollars pour un résultat, discutable, si on veut rester bien élevé?
Pour une raison très simple, c'est que ça entretient une économie. Ça entretient l'industrie de défense américaine, ça entretient beaucoup de choses. Mais là, on est sur une autre logique qui est celle des contractors américains encadrés et sous contrôle du département de la défense américain.
Ouais, et puis au plan purement technique, l'échelle n'est pas du tout la même. L'Irak,
oui,
l'Irak c'est un pays avec une armée. Les Comores, c'était à l'époque 1000 soldats peut-être. Donc aucune comparaison au niveau technique de ce qui peut se passer aux Comores ou en Irak.
Mais alors pourquoi les Comores sont importantes pour la France, pour le colonel Denard? Pourquoi les Comores?
Alors à l'époque, il y a une importance. Pardon. À l'époque du premier, les premières opérations aux Comores, il y a eu 75, il y a eu 1978. On est dans un contexte de décolonisation, de fin de la décolonisation, avec la France qui a besoin d'un petit porte-avions. Le petit porte-avions, c'est Mayotte, qui a besoin de conserver quelque chose dans cette zone-là. Donc il y a un enjeu stratégique français à l'époque, et c'est la raison pour laquelle Denard est tout à fait officiellement envoyé en mission, que ce soit en 1975 au moment de la déclaration d'indépendance des Comores, ou que ce soit en 1978 quand il a fallu renverser Ali Swali, qui prenait plus les attitudes de dictateur sanguinaire qu'autre chose, et même d'ailleurs en 1995 où là le contexte était un petit peu différent, mais la réalité et l'implication française était grosso modo la même.
Alors autant sur la première opération aux Comores, on comprend à peu près, enfin le grand public comprend à peu près que Bob Denard, sous autorisation et peut-être plus des autorités françaises, intervient parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu, et finalement se débrouille pas mal. Il se prend d'affection, si on comprend un peu, pour le pays, pour ses habitants, pour ce qu'il y a à faire, et se donne une nouvelle dimension, vous l'avez dit, en un peu de bâtisseur, ne pas toujours détruire, mais construire. Autant en 1995, j'avoue qu'on comprend mal. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est assez nébuleux pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Oh bon, bah oui, on peut clarifier les choses. La première clarification, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que le président Johar a été remis en fonction ou pas? Non, l'armée française a exilé le président Johar à La Réunion, à l'île de La Réunion. C'est-à-dire que les autorités françaises voulaient l'éviction du président Johar. Ça, c'est clair, net et précis.
Oui, pour la petite histoire, donc, à savoir que le président Johar était le président en poste en 1995 quand l'opération a eu lieu. Le président a été donc remis aux autorités françaises par le colonel et qu'il a ensuite été déporté à La Réunion.
Donc, si vous voulez, on juge une politique à ses effets. Donc, de ce point de vue-là, l'affaire est claire. Alors, l'aspect nébuleux de tout ça, souvenez-vous de l'époque, 1995, lorsque l'opération se monte, ça commence à l'époque où tout le monde donne Balladur grand vainqueur, d'Edouard Balladur, grand vainqueur de l'élection présidentielle. Et puis revirement de situation, patatras, c'est plus Balladur, c'est Chirac. C'est, je crois, une affaire qui n'a pas véritablement été passée en consigne entre les équipes des uns et des autres. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui agite la sphère médiatique internationale en septembre 1995? C'est la reprise des essais nucléaires français.
Oui.
La France est au banc des nations car elle fait encore exploser des bombes atomiques. C'est un peu la Corée du Nord de l'époque.
S'il y a une chose que l'on doit au président Chirac, c'est cela, puisque ça rappelle que ça a permis à notre système de défense et de dissuasion nucléaire de rester au niveau et d'accéder à la miniaturisation ensuite des essais. Donc vraiment, s'il y a une chose que l'histoire, à mon avis, retiendra en tout cas de positif pour la présidence de Chirac, à mon humble et modeste avis, c'est cela.
Oui, c'est vous avez évidemment raison, mais là, je parle du traitement
bien entendu
international.
Mais je pense que c'est important de rappeler pour nos auditeurs qu'il y a comme ça des moments dans l'histoire où il y a des choix qui sont faits et qui peuvent donner une assurance vie aux générations futures. Et voilà.
Oui, c'est entendu.
Cela devait être dit et porté au crédit.
Là-dessus, nous sommes bien d'accord, mais nous sommes un peu les dernières victimes collatérales des essais nucléaires français.
D'accord.
Parce que donc tout le monde parle de ça. La France est très méchante et surtout dans le concert de protestation internationale est très très fort. Et là, Chirac, les équipes autour de lui tiennent quelque chose pour attirer l'attention autrement. Et là, c'est la France qui intervient contre les méchants mercenaires. Il est aujourd'hui, avec le recul, absolument certain qu'on doit cette intervention française et ce grand tintamarre médiatique qui accompagne l'intervention française à cet impératif de reprendre la main sur le plan de la communication. Voilà, ça c'est un peu une parenthèse.
Fondamentale qui explique finalement une partie du fiasco, parce que c'est un fiasco, non ?
À la fin, on ne peut pas dire que ça soit une réussite. Quand on se retrouve, arrêté par le GIGN, mais
ça a
sur
été
le
votre
fond,
cas.
Bien sûr,
mais ça, non, mais
vous
l'opération
aussi, Jean-Pierre Candani.
Oui, bien sûr, mais l'opération n'est pas un fiasco. L'opération est réussie. Après, la France intervient de la manière qui a été décrite.
Alors revenons à l'opération en quelques mots pour nos auditeurs. En quoi consiste-t-elle au départ ?
C'est uniquement... On parle de 95, oui. C'est une opération relativement simple sur le plan tactique qui consiste à, débarquer à quelques-uns, rétablir la connexion avec toute la partie des forces armées comoriennes avec lesquelles nous avions tous gardé d'excellents rapports, et puis de procéder à la mise à l'abri du président de la République. Ça se traduit avec un certain nombre d'objectifs tactiques tout à fait... c'est un coup de main tout à fait simple qui se singularise par un soutien local absolument extraordinaire.
De la population.
De la population, de l'armée, de tout le monde. Donc ça, voilà, il ne faut pas oublier ça non plus. Ce n'est pas des opérations possibles. Vous mettez 15 fous furieux sur armée, vous n'obtenez pas ce résultat. C'est la connaissance des gens, la connaissance du pays, la connaissance des mentalités et surtout le besoin local de changement qui fait qu'un coup d'État fonctionne ou ne fonctionne pas. En l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais là, si vous voulez, on est à l'extrême fin de c'est probablement la dernière aventure post-coloniale du siècle dernier. Ça clôture pour moi cette affaire, l'épisode colonial français.
Colonial et son corollaire, la décolonisation.
Absolument.
Combien de soldats participent avec le colonel Denard à cette opération ?
36.
Pour l'opération proprement dite, 36.
On est donc sur de petits effectifs.
L'équivalent d'une section d'infanterie. Vous ne faites pas, entre guillemets, tomber un pays sans son assentiment avec un effectif aussi faible. Donc tactiquement, techniquement, l'opération est un succès total.
C'est ce que disait Jean-Pierre Candani.
Après, ensuite, c'est la politique.
Alors je pense
mais
que c'est intéressant. Alors justement, c'est un sujet tout à fait passionnant. Parce que finalement, en disant cela, vous essayez de vous remettre du côté du soldat légaliste. Puisque le soldat légaliste, justement, c'est ce qu'il dit. C'est la grande muette, c'est la politique, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon métier. Alors que normalement, le mercenaire a cette particularité, cette chance et également l'opprobre qui en résulte de choisir son combat. Donc là, vous êtes, enfin, si je puis me permettre, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en contradiction ?
Pas totalement. Pas totalement, je vous explique pourquoi. Un mercenaire, c'est pour ça que je le définis moi comme un soldat libre, c'est un homme qui choisit ses causes, qui choisit ses engagements, qui choisit ses chefs. En l'occurrence, il n'y a aucun problème pour les gens de cette génération que nous avons connu, nous. Nous avons choisi notre chef et il s'appelait Bob Denard. Il n'y avait aucun problème. Mais c'est pas à nous derrière de gérer les implications, de se substituer aux autorités politiques et de gérer les implications politiques de toutes ces opérations. L'intérêt, si vous voulez, de la période de la décolonisation et jusqu'en 1995, c'est que les États occidentaux, et principalement la France, un peu la Belgique, mais principalement la France, utilisent à grande échelle, à relativement grande échelle, ce qu'on appelle des mercenaires, en vertu d'une théorie qui a très très bien fonctionné et qui a eu son point d'orgue en 1995 aux Comores, qui est la théorie du démenti plausible. C'est pas nous, puisqu'on les arrête. Donc il y a bien un moment où il faut se plier au jeu, si vous voulez. On n'est pas plus fort que tout le monde. Nous, on n'a jamais, aucun d'entre nous n'a jamais prétendu avoir une action sur le plan diplomatique, politique, etc. On a fait notre boulot à l'époque où ça nous était demandé. On l'a fait proprement. Bon, il y a eu, disons, une attitude pas très conséquente des autorités françaises avec nous, et singulièrement avec le colonel Denard. Parce que nous, on était jeunes, nous avons tous rebondi hein, sur des tas d'autres choses. Bon, le colonel, c'était sa dernière opération. Et là, moi, je considère que effectivement, les autorités françaises auraient pu être un peu plus élégantes à son endroit. Mais c'est tout. Le reste, on s'inscrit dans un mouvement historique, des mercenaires, il y en a toujours eu. C'est pas nouveau, ça ne s'arrêtera pas. Il y en a eu sous différentes formes. Et en fait, on retrouve, si vous voulez, historiquement, trois grandes formes de mercenariat, mais depuis la nuit des temps.
Je pense que c'est intéressant et important pour nos auditeurs pour quand même donner un peu une perspective historique.
Donc, mais alors, en fait, bon, je vais pas faire un tunnel, là-dessus. Mais vous avez historiquement une forme mercenariale de type militaire. Il faut savoir que dans l'armée française, par exemple, grosso modo jusqu'à la Révolution française, tout petit peu avant, la bascule a commencé un tout petit peu avant, mais elle se concrétise avec la levée en masse. La norme, c'est le mercenariat. La norme, ce sont des unités étrangères, écossaises, suisses, allemandes. Donc on parle des gardes suisses, on parle des gardes écossais du roi de France, on parle de Lansquenet et de Rêtres, donc plusieurs régiments allemands au service de la France. Sous Louis XV, un tiers des armées françaises sont en fait des troupes mercenaires.
Mais les deux tiers restent quand même des Français, des hommes de troupes, des officiers français avec cette tradition militaire, notamment au sein d'une partie de la noblesse qui forme quand même le substrat principal.
Principal non, qui forme un des substrats, mais disons que le mercenariat est considéré comme normal. Voilà, ça fait partie de la norme.
Il y a une continuité parfaite entre le chevalier adoubé et le mercenaire qui combat à ses côtés.
Absolument. Toutes les études dans ce sens conduisent à ça. Hein, je vous renvoie au livre de l'excellent Walter Bruyère-Hostels, professeur d'histoire à Sciences Po Aix-en-Provence, qui a publié beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Tout ça est acquis. Première forme, c'est ça. La deuxième forme de mercenariat, c'est, on va dire, une forme plus engagée. Je prendrai un exemple tout bête de mercenaires entre guillemets idéologiques ou engagés. Ce sont les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. On les appelle volontaires parce que dans le contexte de la décolonisation, il fallait un petit peu hystériser le terme mercenaire et en faire le charger d'une connotation négative. Mais ça, c'est la deuxième forme. Cette forme-là, elle, apparaît et disparaît selon les époques. Et puis vous avez une troisième forme qui rejoint la question que vous posiez tout à l'heure sur les hommes d'affaires, les entreprises, c'est la forme entrepreneuriale du mercenariat. Et celle-ci, vous la trouvez par exemple dans la Renaissance italienne, dans la condotta de la Renaissance italienne, les fameux condottières de la Renaissance italienne, le plus connu étant, le plus emblématique étant celui qui a sa statue à Venise, Bartolomeo Colleoni, qui a marqué son époque, où là, en fait, vous aviez un contrat, un entrepreneur de guerre signé avec une cité, un contrat, au terme duquel, qui était très précis d'ailleurs, au terme duquel il fournissait assistance, soit pour la défense de la cité, soit pour mener des conquêtes.
Une sorte de PPP avant la lettre, partenariat public-privé.
Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et c'est mais vous avez...
Une concession de défense, comme il y a les concessions autoroutières.
C'est exactement ça à l'époque des condottières. Mais autre exemple très connu aussi de ce type de mercenariat, c'est la guerre de 30 ans. Wallenstein, Tilly sont à la tête d'armées mercenaires considérables. C'est l'époque que les premières armes de Descartes, on le sait assez peu, on peut être mercenaire et philosophe. Descartes était mercenaire sous le nom de Monsieur Duperron. Donc, et c'était l'époque voulait ça, si vous voulez, ça se. Donc, et ces trois formes alternent. Aujourd'hui, c'est la forme entrepreneuriale qui est la plus dominante avec les fameuses sociétés militaires privées, notamment anglo-saxonnes. Et la transition, et là, je reviens sur l'affaire des Comores. La transition se fait au moment de la chute du mur, parce que la mort du président Abdallah en fin 1989, ça correspond à l'époque de la chute du mur de Berlin, un mois plus tôt. Et pendant que l'armée française intervient pour bouter les méchants mercenaires hors des Comores, c'est un hasard qui n'en est peut-être pas un, à peu près à ce moment-là, ou à quelques semaines de différence, on assiste à la naissance de la première société militaire privée d'envergure, Executive Outcomes, en Afrique du Sud, et qui, pendant plusieurs années, va occuper le marché des prestations militaires privées. C'est-à-dire que la France...
Dans le monde.
Dans
enfin, une partie du monde.
Plutôt en Afrique à l'époque. Et puis, ça a préludé, évidemment, à la mise en place des grandes sociétés militaires privées qu'on connaît actuellement, notamment américaines. Les Américains ont fini par prendre le leadership, comme ils disent, sur ce sujet-là. Oui. Et donc, aujourd'hui, on a affaire à la prédominance de la forme entrepreneuriale du mercenariat. Mais la France se prive de toute action sur ce marché-là en essayant de mettre fin à son mercenariat traditionnel, précisément au moment de l'émergence des grandes sociétés militaires privées, c'est-à-dire de la bascule sur d'une forme militaire à une forme entrepreneuriale. Et dans le grand mouvement de l'histoire, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'échappera pas aux gens qui étudieront le sujet dans le futur.
C'est une langue belle avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émission de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 euros par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie.
C'est une langue belle qui sait la défendre, Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. J'ai le grand plaisir de faire une émission autour de la grandeur et de la servitude de l'État de mercenaire, et également une émission d'hommage à Bob Denard. Autour de moi, Thierry Tupé, qui est le président de l'association OPN, Orps Patria Nostra, François-Xavier Sidos et Jean-Pierre Candani, qui sont tous les deux anciens officiers de la garde présidentielle comorienne. Et nous sommes en train de voir l'évolution donc de ce métier. Alors nous y viendrons, c'est un métier de mercenaire avec les sociétés militaires privées. Et ce que vous dites, François-Xavier Sidos, c'est que la France a raté l'occasion de faire partie des grandes nations capables de transmettre et de faire vivre un savoir-faire militaire dans le cadre de ce besoin international de sociétés militaires privées.
Oui, c'est exactement ça. Et non seulement raté, mais en plus c'est bien enfoncé elle-même ensuite par l'adoption d'une loi, sans vrai débat, la loi de 2003 anti-mercenaires, a cassé un petit peu toutes les bonnes volontés françaises. Alors, certains Français ont tenté de revendiquer l'appellation société militaire privée, mais sans grand succès. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de soutien, pour le coup, de soutien politique à l'époque. La France était désengagée de cet aspect-là et a volontairement ou non laissé faire les Anglo-Saxons, puis principalement les Américains.
Alors que pour autant, la France a quand même une certaine compétence en matière de ce qu'on appelle l'intelligence économique au sens large, et qui forcément a une frontière avec l'intelligence militaire. Donc comment vous expliquez? C'est que nous sommes spécialisés sur la partie intelligence économique et nous avons laissé l'opérationnel aux Anglo-Saxons.
Oui, dans la pratique, il manque le volet opérationnel. Et c'est le problème de toutes les entreprises françaises d'intelligence économique aussi, c'est que elles sont, pour la partie, je dirais, application, elles sont obligées d'avoir recours aux entreprises anglo-saxonnes. Alors, c'est très difficile de déterminer aujourd'hui la nationalité d'une entreprise.
Oui, mais pour reprendre la phrase de Peggy, vis-à-vis de Kant, il a les mains pures, mais il n'a pas de main.
C'est exactement ça. C'est plus facile, évidemment.
Alors, pour nos auditeurs, rappelons que donc ces sociétés militaires privées ne sont pas que des consultants, comme vous vous êtes présenté. C'est-à-dire qu'elles sont opérationnelles sur le terrain et elles ont un pouvoir militaire et une capacité d'engagement, pour employer des termes militaires convenus. Et ma question, c'est... Aujourd'hui, sur quel théâtre d'opération fait-on appel à ces sociétés militaires privées et pourquoi ? Les armées ne suffisent plus, on veut quelque chose qui soit à mi-chemin entre les services secrets et l'armée officielle. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a, dans tout ce que vous avez dit, il y a une sorte de continuum entre l'armée régulière, les services secrets et au milieu, le mercenaire qui est une sorte de pont entre les deux.
Alors il y a un peu de ça, mais il y a aussi, je vous renvoie aux excellents travaux de Philippe Chaplot, qui est le correspondant défense de la revue Ouest France et qui a publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Lui voit beaucoup dans tout ça une raison principalement économique. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, comme dans tant d'autres, le privé fait mieux et moins cher que le public. Donc il y a aussi une question budgétaire.
Mais en dehors de toute considération politique. Thierry Dupé, vous souhaitez...
Oui, et le privé peut être désavoué, surtout.
Oui, et c'était ce que vous disiez tout à l'heure avec l'importance. Le mercenaire ne sert qu'à une chose, finalement, c'est pouvoir le désavouer.
Et puis, rappelons-nous de la fin de l'intervention militaire française en Afghanistan, qui se situe plus ou moins après une embuscade meurtrière dans laquelle... Nombre de soldats français sont tués, ce qui émeut beaucoup la population. Si c'est des contracteurs, tout le monde s'en fout.
Oui, tu parles de l'affaire d'Ouzbin, l'embuscade d'Ouzbin, qui a effectivement marqué assez fortement les esprits en France. Un mercenaire, ça peut se faire tuer, effectivement. Ça pose, entre guillemets, pas de problème, si ce n'est assez proche. Et les familles ne portent pas plainte.
Allez-y, allez-y, exprimez-vous,
Thierry Tupé. Dans le cas de décès de mercenaires, de contracteurs, les familles ne portent pas plainte. Alors qu'à l'heure actuelle, dans l'armée française, même un légionnaire, on n'a pas parlé de la Légion, d'ailleurs, il faudrait l'aborder rapidement, même un légionnaire qui se fait tuer, l'armée française, en tant que responsable de sa mort, peut avoir des comptes à rendre.
De quel ordre ?
De la même façon qu'elle a des comptes à rendre pour les militaires de l'armée française qui sont tués au feu. Pourquoi il est mort ? Dans quelles circonstances ? Il n'est pas mort. Pour la famille, il n'est pas mort dans l'exercice de son métier. L'armée française doit être redevable de la mort de ses hommes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de confusion ? Évidemment que l'armée doit tout faire pour protéger ses hommes, mais néanmoins, à partir du moment où quelqu'un s'engage, il accepte le risque du sacrifice.
C'est tout le problème. C'est tout le problème.
Enfin, il me semble, c'est de mon temps.
Je suis pas sûr que ce soit la grande motivation, enfin que ce soit toujours d'actualité pour une grande partie des militaires en général. Maintenant, c'est une carrière administrative. Hein. Donc, respect le plus profond aux combattants, bien entendu. Mais je suis pas sûr que 100% des engagés volontaires le soient pour la bonne raison. La bonne raison, c'est servir son pays, éventuellement au sacrifice de sa vie.
Donc ce sont de sortes de mauvais mercenaires, c'est ce que vous nous dites.
Vous savez, on oppose souvent le mercenaire au soldat. Si vous voyez les choses d'un strict point de vue étymologique, le mercenaire vient du latin mercenarius, qui est un salarié tout simplement. En allemand, mercenaire se dit soldner. Donc soldat. Et le soldat fait référence à la solde.
Donc c'est bien la rétribution de sa fonction.
Et la grosse différence que je vois entre le mercenaire et le soldat à l'époque moderne, c'est la régularité de la solde. Plus établie, plus acquise du côté soldat officiel que du côté mercenaire.
Encore que les choses sont peut-être en train d'évoluer. Moi, j'ai été extrêmement frappé par l'affaire Louvois, qui ne nous ramène pas au grand siècle de Louis XIV, mais simplement à ce logiciel de paye qui fait qu'on a des militaires d'actifs sous le drapeau français, avec pour certains des statuts de fonctionnaires, et non pas de contrat d'engagement de 5 ans, qui n'ont pas été payés. Et ça nous ramène plusieurs siècles en arrière. Alors que je pense que dans une société militaire privée, à mon avis, la chose aujourd'hui, au moins du côté anglo-saxon, est inconcevable.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Pas d'argent, pas de Suisse.
Voilà.
mais bon, oui, effectivement, les difficultés organisationnelles de l'armée française, elles sont réelles, mais c'est un autre.
C'est un sujet à part entière. Mais revenons justement à ces sociétés militaires privées. Dans quel cas, aujourd'hui, les gouvernants font appel à des sociétés militaires privées sur les différents théâtres d'opérations qui nous sont présentés dans nos télévisions?
Vous avez grosso modo quatre théâtres où, à ma connaissance, il y a des sociétés militaires privées avec des combattants. Vous avez l'Irak, qui a été le paradis des contractors, en fait c'était plutôt des escortes, hein, ce qui a les accrochages avec les morts, hein, dans les entreprises militaires privées anglaises puis et américaines, c'est surtout lors de patrouilles, d'escortes, de convois, de déplacements, des choses comme ça. C'est pas au sens premier des opérations militaires offensives. C'est la vie fait que on a besoin de déplacer un certain nombre de choses. Et donc vous avez dans les mêmes conditions l'Afghanistan. Vous avez, paraît-il, un certain nombre de Russes qui sont présents en Syrie. Dans les mêmes conditions aujourd'hui, et d'autres, des théâtres d'opérations plus mineurs. On est aussi dans un contexte d'externalisation d'un certain nombre de services, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des prestations militaires privées, la fourniture de moyens de vie, de bases de vie.
Tout ce qui permet à un soldat ensuite d'aller combattre.
tout ce qui permet le soutien, le support, oui. Alors de ce point de vue-là, en France, vous avez, une organisation civile qui est très connue, qui s'appelle l'Économat des armées, qui assure le soutien au déploiement des forces françaises à l'international, mais aussi d'un certain nombre de missions internationales, ou ONU, etc. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que l'Économat des armées est peut-être considéré comme une société militaire privée.
J'ai une question pour vous tous, évidemment, c'est comment devient-on mercenaire ? Qu'est-ce qui préside à ce choix ? Donc, je vais peut-être commencer par Jean-Pierre Candanic. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce choix, qui évidemment est un choix hors norme, quelles que soient les conditions ? Parce que vous nous présentez les choses de façon assez policée, et c'est tout à votre honneur. Néanmoins, je pense que voilà, vous avez peut-être un peu plus de souvenirs et d'histoire qu'un caissier de poste moyen.
J'ai du mal à répondre comment moi j'en suis arrivé là. Je sais comment j'en suis arrivé là, mais les motivations profondes. Moi, je suis pas un politicien. J'ai pas d'engagement politique à la clé. Je vais pas défendre la veuve et l'orphelin. Je vais pas défendre la patrie contre l'envahisseur rouge. Tout ça, j'en ai rien à faire. Moi, c'est plutôt, je dirais, l'aventure personnelle. Oui, je pense que si je devais résumer, je dirais plutôt c'est la recherche de l'aventure personnelle. Ouais.
Vous avez commencé dans l'armée traditionnelle ou...
Oui, alors j'ai à l'époque du service militaire, donc il y avait la possibilité pour, comme c'est je pense le cas pour beaucoup de camarades de ma génération, on avait la possibilité donc d'accéder au statut de sous-officier. Bon, en suivant un cheminement particulier, bien sûr, mais donc moi c'est comme ça. Je fais mon service militaire, je suis sous-officier, je désire rengager. Ça peut pas se faire pour tout un tas de raisons, et voilà. Donc j'ai une connexion qui me permet de rencontrer le colonel Denard, et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais ma recherche à moi, c'est la recherche de l'aventure personnelle. Ouais.
Et à quel moment on arrête et pourquoi ?
Ah bon, on arrête. Est-ce que alors après c'est.
Vous n'êtes peut-être pas arrêté d'ailleurs. Non, voilà. vous continuez. Enfin, je ne veux pas trahir de secret, mais vous êtes peut-être en train de faire quelque opération ici ou ailleurs.
Alors après c'est un chemin particulier. Je veux dire, c'est pas une carrière dans laquelle on s'engage et puis on prend sa retraite après un certain nombre d'années de service. Non, c'est un cheminement particulier. Les opérations. Se succède pas à l'envi, ça dépend des opportunités, du contexte, des relations, de son choix aussi, parce qu'à un moment, parmi nos plus anciens, et ben on en connaît qui ont été au Congo et qui ont fait 6 mois. Et puis il y en a qui ont fait toutes les guerres. Je citais le cas de Monsieur Roger Bruni, qui a fait toutes les guerres et toutes les opérations avec le colonel et qui a vécu toute sa vie un fusil à la main. Après, c'est des choix, je veux dire. Pour ma part, j'ai participé à quelques opérations avec le colonel. Donc le colonel n'est plus là. Après, j'ai travaillé pour des contracteurs. Et après, c'est des choix personnels, je veux dire. Quand on n'arrête pas, c'est un choix personnel.
Et vous nous avez dit que vous aviez épousé une Comorienne.
Oui.
Donc vous êtes toujours très lié à ce territoire.
Oui, par la force des choses. Ouais. Par la force des choses, oui. Ouais.
Et aujourd'hui, que diriez-vous, quelqu'un, un jeune qui dirait, ben moi, je m'interroge, l'armée, être mercenaire Alors, journaliste, ça, je pourrais lui répondre, mais sinon, pour le reste... Il y en a encore aujourd'hui, des mercenaires ?
Mais
Ou c'est devenu beaucoup plus cadré avec ces fameuses sociétés
militaires
privées.
Non, le mercenaire tel que nous on l'a connu, c'est fini, ça n'existe plus, c'est interdit par la loi et ça n'existe plus. Il n'y a plus d'opportunités. Donc maintenant, ça passe par des sociétés privées, quel que soit le, même si le travail peut d'une certaine manière être le même, c'est-à-dire former des gens, encadrer des gens, apporter une expertise technique sur différentes choses. Le cadre n'est plus du tout le même. Donc on je ne sais pas si le terme de mercenaire sera toujours en usage. Maintenant,
sens,
ça passe par des techniciens, par des consultants. Et voilà. Alors, si un jeune venait me voir en me disant « je veux être mercenaire », je dirais bah, « va faire tes gammes dans l'armée française, apprends ton métier ». Et puis après, probablement, si tu es performant, tu trouveras du travail dans une société militaire privée.
D'accord, mais ça n'a plus tout à fait le même parfum, c'est ça ?
Non, voilà, ça n'a plus du tout le même parfum, non, exactement.
François-Xavier Sidos.
Oh, mon parcours est un peu différent, mais pas tant que ça, finalement. À l'époque, en 1986, je suis officier de réserve de l'armée française, et je suis recruté à l'école militaire. J'ai un rendez-vous à l'école militaire avec un officier français qui me dit « si ça vous embête pas, on traverse la rue ». On va déjeuner avec un ami. L'ami en question, c'était le colonel Denard, qui à l'époque cherchait des gens plus profil jeunes officiers que profil jeunes sous-off. À quelques années près, c'était des. Mais voilà, il cherchait un peu à changer un peu de profil. C'est comme ça que je me retrouve là-dedans. Mais après, vous demandez comment est-ce qu'on devient mercenaire ? J'aurais tendance à répondre un peu par une boutade. On ne devient pas. On est ou on n'est pas. On a besoin d'évoluer dans un contexte extrêmement normé, avec de l'avancement, des honneurs, des décorations, et on fait militaire dans l'armée française, ça va très bien. On n'a pas besoin de ça, mais on cherche au contraire un engagement un peu différent, une expérience humaine qui est quand même plus extrême, je dirais, plus dans le bon sens du terme, dans le sens sport extrême. Et on choisit plutôt la voie que nous avons choisie. Mais après, c'est une question de concours et circonstances.
Et aujourd'hui, comment, si vous aviez de nouveau 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Puisque vous nous dites que les mercenaires, ça a eu payé. Enfin, il n'y a plus vraiment de mercenaires. Enfin, c'est...
Non, mais bon, là, je ferai la même réponse que Jean-Pierre. Je vois beaucoup de jeunes qui me demandent quoi faire et comment suivre cette filière, et je leur dis, mais ça, c'est de cette façon-là, chaque époque a sa réalité, et on ne reproduit pas l'histoire, ne repasse pas les plats. Donc, commencez par faire vos armes dans vos armées nationales, apprenez le métier, ressemblez à quelque chose, ayez une qualification, et puis derrière, on verra bien. Mais là, alors je sais bien qu'à 20 ans, on cherche l'aventure, on a tous fait ça, c'est normal, c'est absolument normal. Après, on a l'âge de ses artères, et il y a un moment où il faut quand même réfléchir un petit peu à la façon dont les choses fonctionnent. Et alors, certains restent dans ce métier, d'autres, comme c'est mon cas, font totalement autre chose, qui n'a strictement rien à voir. Mais je dois dire que même dans une activité entrepreneuriale tout à fait normale, cette expérience est très, très, très utile. Parce qu'on a appris à faire énormément de choses avec très, très peu de moyens.
On y reviendra. Je retiens le terme « aventure » qu'on n'a pas encore prononcé durant cette émission et j'attendais que l'un d'entre vous le prononce. Mais sinon, je me serais permis de le jeter sur la table. La question, peut-être en effet, aujourd'hui, c'est « elle est où l'aventure ?» pour un jeune. Je n'ai pas de réponse.
Vous savez, quand vous voyez les engagements même de l'armée française aujourd'hui, j'ai connu une époque quand j'étais officier de réserve dans l'armée française, il y avait très peu d'opérations extérieures. Aujourd'hui, tous les jeunes qui s'engagent, ils ont eu Afghanistan, il y a eu bien sûr l'Europe, les Balkans pendant un certain temps. Il y a eu l'Afghanistan, il y a le Mali, il y a la Centrafrique, il y a beaucoup d'opérations extérieures. Et le contexte d'intervention, d'engagement de l'armée française à l'étranger n'est pas du tout le même qu'il y a 30 ans.
Oui, puis il y a la professionnalisation des armées qui fait que maintenant, même si on se retrouve dans un régiment, j'allais dire, comme on l'appelait à l'époque, de pousse-cailloux, c'est-à-dire à l'époque, on privilégiait un petit peu les bérets verts, les bérets rouges, c'était un petit peu la crème de l'armée française qui partait en opération. Moi, quand j'ai rejoint le colonel en 79, Donc j'ai rejoint la garde présidentielle en 79. À un moment, je me pose la question, parce que la France n'est jamais aussi interventionniste que sous Mitterrand. Et il y a tous les régiments d'élite. À l'époque, il n'y a que les régiments d'élite, entre guillemets, qui sortent, enfin, qui vont à l'extérieur. Et à ce moment, je me dis, mais je me suis peut-être finalement trompé de porte, quoi. Et comme le dit François-Xavier, effectivement, maintenant, tout le monde, avec la professionnalisation des armées, tous les régiments, sauf erreur de ma part, mais même les chasseurs alpins. Moi, j'ai travaillé au Tchad il n'y a pas longtemps. Je trouvais des chasseurs alpins au fin fond du désert, au Tchad. Merde, dans l'Est, là.
Sous le bousse.
Bon, enfin, peu importe. Mais au fin fond du désert, au Tchad, vous avez un régiment, enfin, des éléments à déchets, des chasseurs alpins. Donc maintenant, effectivement, tout le monde sort. Et je dirais aussi que, pour avoir aussi, au cours de différentes opérations, côtoyé des militaires français, je veux dire, actuellement, maintenant, c'est très, très pointu. Hein, je veux dire, il y a de quoi faire du beau travail avec du beau matériel. Hein, donc, l'aventure que nous, on cherchait ailleurs à cette époque-là, on peut la trouver aujourd'hui en faisant une belle carrière militaire, pourquoi pas.
Thierry Tupé.
Alors moi, ça va être très simple, c'est par tradition familiale. Mon père l'était, après avoir fait une belle guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il connaissait le colonel Thénard personnellement. Il a servi au Yémen, il a servi au Katanga, et après il a repris sa vie tranquille de père de famille, et c'est là que j'ai eu le virus, oui. Voilà, tout simplement. Tradition familiale.
Et vous avez participé à quel type d'opération ?
Alors, très modestement, après 78, le débarquement de 78, je ne l'ai pas fait. La garde présidentielle des Comores, et puis le Tchad. Le Tchad... de l'époque.
Alors peut-être nous dire quelques mots sur ce que sont devenus justement ceux qui se sont engagés, qui ne se sont peut-être pas engagés toute leur vie, parce qu'il y a un moment, comme vous le dites, on a l'âge de ses artères et on fait autre chose. Que sont-ils devenus ? Moi, j'ai toujours constaté, en tant que journaliste, que ceux qui avaient eu des engagements décalés étaient souvent des gens qui ensuite pouvaient rebondir, finalement, quel que soit le milieu. Est-ce que vous confirmez cette impression ?
C'est assez exact, avec évidemment des disparités. Mais c'est assez exact, c'est-à-dire que l'habitude de faire très peu de faire beaucoup avec très peu de moyens, l'habitude du risque aussi maximal, et ça permet aussi de rebondir, je dirais, plus facilement. Mais après, chacun fait ça en fonction de ses opportunités. Il y a des gens qui sont toute leur vie à la lisière de ces métiers-là, parce qu'ils le souhaitent. Hein. Puis il y a des gens qui cherchent à faire autre chose, mais ça les arme. Oui, c'est le genre d'expérience qui arme pour la vie. Ça, c'est absolument certain.
Écoutez, merci à tous. Je vous propose un mot de conclusion chacun. Jean-Pierre Cordani.
Sur quoi voulez-vous que je conclue ?
Ce que vous dit votre cœur.
Eh bien, puisque quand même ce qui nous réunit maintenant, c'est la mémoire du colonel Denard. Donc, quoi dire sur cet homme ? On disait tout à l'heure en introduction qu'on est cherché à le définir. Encore une fois, je pense qu'on n'a jamais pu les uns ou les autres vraiment le définir. Qu'est-ce qui nous a lié à lui ? Donc, son charisme, ce qu'il nous proposait. Et comme nous l'avons écrit sur sa tombe, il nous a permis de vivre nos rêves quelque part.
Jean-Pierre Cordani, merci. François-Xavier Sidos.
Ouais, je dirais qu'en conclusion, que pour appréhender correctement le sujet du mercenariat, il faut se garder de tout jugement moral inapproprié. Le mercenariat ou le mercenaire n'est ni bon ni mauvais, c'est juste une réalité. C'est l'usage qu'on en fait. C'est ce qui sous-tend les réalités politiques derrière, sur lesquelles on peut mettre des jugements de valeur. Et je voudrais quand même témoigner de mon profond respect, de mon profond attachement à la personne du colonel Denard, qui, moi, à titre personnel, a été, je dirais, mon premier vrai patron. Voilà.
François-Xavier Sidos, merci. Thierry Tupé, en tant que président de l'association OPN Orps Patria Nostra, un mot de conclusion.
Merci. Donc c'est à ce titre que je vais conclure. Nous sommes quelques-uns à porter et à honorer la mémoire du colonel. Quand je dis quelques-uns, je compte bien sûr les adhérents. Mais nous ne sommes malgré tout pas nombreux. Et je profite de la tribune que vous m'offrez pour faire un peu de publicité pour notre association. Vous avez eu la gentillesse à plusieurs reprises de la nommer, de dire qu'il y avait un site. Donc j'encourage et j'insiste aussi sur le fait que l'association est ouverte à tous. Les mercenaires, les combattants qui ont servi sous les ordres du colonel sont de moins en moins nombreux et sont destinés à disparaître. Si l'on veut maintenir la mémoire du colonel et des hommes qui sont morts pour lui ou avec lui ou sous ses ordres, tout le monde peut adhérer à l'association. C'était le premier point. Le deuxième point, notre réunion annuelle a lieu cette année pour la cérémonie, pour le 10e anniversaire de sa mort, a lieu à Gréhan et l'hôpital. Elle est ouverte à tous. Inscription et adhésion sur le site de notre association. Et pour finir, une petite chose personnelle, après les propos qu'ont tenus Jean-Pierre et FX, le mercenariat tel qu'on l'a connu, c'est une chose évidente pour moi, n'existe plus et ne sera jamais remplacé par quoi que ce soit. Merci infiniment.
Merci à tous, merci à nos auditeurs. Je rappelle le thème de l'émission, hommage au colonel Denard et grandeur et servitude du métier de mercenaire. Je remercie le président de l'association Orps Patria Nostra, Thierry Tupé, et en effet nos auditeurs pourront avec bonheur se plonger dans la vaste documentation que vous avez bien voulu constituer. Cela se trouve facilement sur internet par les moteurs de recherche. Merci à Jean-Pierre Candani, ancien officier de la garde présidentielle comorienne et consultant en sécurité, et merci également à François-Xavier Sidos, également ancien officier de la garde présidentielle comorienne et auteur des Soldats libres, la grande aventure des mercenaires. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans 4 semaines. Je remercie la technique et en particulier Franck, et je vous propose, chers auditeurs, de méditer sur l'engagement et sa signification autour de cette association qui promeut la mémoire du colonel Denard. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens dirigé par Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 4 septembre 2017, diffusée samedi 18 novembre de midi à 13h30 et réalisée par Franck et Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.